que ve shooting de jazz.
Digo de Radio France Internationale.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Nina Nguyen pour la rédaction chinoise. Afin de faire un point sur les négociations commerciales entre Pékin et Washington. Andreina Flores de la rédaction en espagnol.
Buenas tardes.
À propos de la crise politique, économique et sociale qui perdure au Venezuela. Et puis Thuang Le de la rédaction vietnamienne.
Si, tiens.
Car le dirigeant nord-coréen pourrait se rendre à Hanoï dans les prochains jours. Bonsoir à vous toutes, mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine. Ça concerne la France, c'est la crise des gilets jaunes, qui n'en finit pas samedi après samedi. Nous allons voir d'ailleurs que ce mouvement de protestation existe aussi ailleurs dans le monde. Mais tout d'abord, Andreina, ce mouvement se propage en Argentine. Les gilets jaunes s'appellent là-bas en espagnol Los Chalecos Amarillos.
Los Chalecos Amarillos, pardon. Oui, c'est ça. En effet, les gilets jaunes argentins descendent aussi dans la rue tous les samedis à Buenos Aires. Ils se rassemblent devant le Parlement argentin pour exprimer leur colère et leurs revendications. Et quelles sont ces revendications? Bon, d'abord, il faut dire qu'ils contestent tout ce qui est lié au réajustement des dépenses exigées par le FMI, après que celui-ci ait accordé à l'Argentine un prêt de 57 milliards de dollars. Los Chalecos Amarillos exigent que cesse l'augmentation des tarifs de services publics, comme l'eau et l'électricité, ainsi que la réduction des salaires et des retraites. Mais los chalecos amarillos en Argentine ne manifestent pas seulement contre la situation économique de leur pays. Ils ont même marché jusqu'à l'ambassade de France à Buenos Aires pour demander la démission d'Emmanuel Macron. Je vous propose de les écouter.
Que dit le porte-parole des Gilets jaunes lors de cette manifestation?
Il dit qu'il y a une ambiance de révolution européenne. Il dit que les fantômes de la Commune de Paris et de la Bastille sont revenus pour lutter contre le gouvernement de Macron.
Alors ça, c'est pour l'Argentine. Au Mexique également, il y a des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a une différence entre les Gilets jaunes argentins et les Gilets jaunes mexicains d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Les Gilets jaunes mexicains ont repris, si on veut, la revendication d'origine des Gilets jaunes français, les combustibles. Il y a une situation de pénurie d'essence au Mexique en ce moment, dû au vol de carburant provenant des oléoducs et surtout après la réponse du gouvernement de fermer ces oléoducs pour empêcher le vol. On écoute une manifestante gilet jaune mexicaine qui est devenue virale dans les réseaux sociaux.
Chalecos amarillos, México. Somos miles millones de mexicanos. No queremos.
Alors, très en colère. Hein.
Oui, nous sommes les gilets jaunes du Mexique et nous en avons marre des pénuries. Vous, président López Obrador, vous êtes un dictateur, crie la dame.
Et Thuang Le, maintenant, intéressons-nous au Vietnam. Comment est-ce que les gilets jaunes français sont perçus, compris là-bas?
Alors, le mouvement dure semaine après semaine, provoque un choc. C'est beaucoup de Vietnamiens qui le trouvent violent. Ils ont l'habitude de voir une France de paix, de solidarité, de liberté d'expression. Manifester pour expliquer le mécontentement est un droit que les Vietnamiens souhaitent la voix. Mais descendre dans la rue pour casser, voler, provoquer des violences, ce n'est pas acceptable pour beaucoup d'entre eux. Et certains auditeurs nous ont même demandé si Paris ne se trouve pas comme en état de guerre. Une touriste vietnamienne a refusé de se rendre à Paris lors de son voyage en France, par crainte de violence, et un autre tombé par malchance au milieu du mouvement aux Champs-Élysées au début de janvier a subi de la fumée de grenade. Et en décembre dernier, l'ambassade du Vietnam en France a appelé à la prudence à tous les ressortissants vietnamiens qui devaient être présents aux Champs-Élysées et elle a établi un numéro vert.
C'est également le cas en Chine, hein, Nina Nguyen. Hein. Oui. Les images ont choqué et finalement poussent certains touristes à ne pas venir.
On dirait finalement que c'est la guerre à Paris et même ma famille m'a appelé à 2h du matin pour confirmer que je suis bien en vie.
Thuang Le, je reviens vers vous. Comment les raisons de ce mouvement des Gilets jaunes en France sont expliquées aux Vietnamiens?
Alors, au début de cette semaine, c'est juste quelques jours après le 13e acte des Gilets jaunes, un journal vietnamien a essayé d'expliquer pourquoi les mesures données par le gouvernement français n'ont pas réussi à calmer le mécontentement des Gilets jaunes. Et d'après ce site, la France est connue généreuse pour ses fonds d'intérêt sociaux. Et pour les maintenir, les travailleurs payent beaucoup de cotisations à différentes caisses et plusieurs sortes d'impôts, etc. Et sur les PME, ce sont les lourds charges et taxes qui les découragent à agrandir leur activité en France. Et les manifestants, qui ne sont peut-être pas les plus démunis manifestent leur mécontentement face à ce déséquilibre social et en particulier après que le président Macron revoie les conditions de recevoir des aides aux familles démunies alors qu'il baisse la taxe aux riches en espérant ceux-ci investissent à l'emploi en France. Et toujours d'après ce journal, Macron est considéré comme le président des riches. Il ne sympathise pas avec les difficultés auxquelles font face les habitants des petites villes et lieux isolés. Et les manifestations des Gilets jaunes expliquent l'explosion des conflits sociaux accumulés en France depuis plusieurs décennies, conclut ce journal vietnamien.
Alors, Nina Nguyen de la rédaction chinoise. Il n'y a pas de gilets jaunes dans la rue en Chine, mais il y a des gilets jaunes sur les travaux des usines de production, parce que finalement les gilets jaunes qu'on voit en France, ce sont des gilets jaunes fabriqués en Chine.
Oui, mais avant d'en parler, j'aimerais bien vous dire que quand même en Chine, il n'y a quasiment pas de gilets jaunes en France non plus, parce que d'après les journalistes chinois avec qui je sors récemment, ils m'ont bien confirmé que, puisque cette année c'est le 55e anniversaire de la relation diplomatique entre les deux pays, le média officiel chinois ne veut pas vraiment nuire à l'image de la France en Chine. Du coup,
Donc il ne relaie pas l'information.
Absolument.
Bon, alors cela dit, il y a quand même des gilets jaunes en Chine, mais d'une certaine manière.
Oui, en gros, en Chine, c'est la fabrication en masse des gilets jaunes, vraiment des gilets pour le besoin de la visibilité. En gros, il s'agit d'un marché généré par les manifestations françaises et le besoin des gilets. La plupart des gilets portés par les gilets jaunes en France, comme en Italie, en Espagne, etc., viennent de la Chine, justement selon de nombreux médias chinois. Ces gilets jaunes fabriqués en Chine, c'est d'abord une histoire de production de masse et qui vise l'exportation internationale. En décembre dernier, certains rapports du marché en Chine indiquaient déjà une forte hausse de commandes pour les gilets jaunes.
Alors, d'où viennent ces gilets précisément? D'une province très particulière.
Il s'appelle la province du Zhejiang, une des plus riches et touristiques du pays. Elle se situe au sud-est de la Chine, juste en dessous de Shanghai, pour une précision géographique. Cette province commençait très tôt à se bénéficier de la réforme et de l'ouverture de la Chine dans les années 70-80, et aujourd'hui, elle a une grande base de l'exportation des petits produits manufacturés et c'est la plus grande du pays et même la plus grande du monde, selon un rapport publié en 2005 par l'ONU et la Banque mondiale. Sur la fabrication des gilets jaunes, voici un témoignage d'un fondateur d'une entreprise dans cette province, recueilli par un média chinois. On l'écoute.
Chez nos confrères de Peng Pai, que dit cet homme?
Cet homme commence à s'investir dans les matériaux réfléchissants depuis 2010 et son entreprise fabrique 200 000 gilets jaunes par mois actuellement. Comme beaucoup d'entrepreneurs de cette province, il exporte vers l'Europe les gilets jaunes à travers des commissionnaires et en novembre dernier, il a reçu des commandes urgentes pour environ 50 000 gilets jaunes pour une livraison avant Noël. Mais il n'a pas révélé l'identité de ses clients.
Et puis, il y a des commandes américaines?
Oui, effectivement, en 2016, à Zhejiang, plein d'usines avouaient que les commandes américaines, justement pour les t-shirts et des drapeaux avec les slogans en faveur de Trump imprimés dessus, étaient plus nombreux que pour Hillary Clinton. Ils disaient ici, on accepte les commandes pour Trump même sans consigne à verser à l'avance, car le nombre de commandes montre que sera lui le nouveau président des États-Unis.
Finalement, on voit que milliardaires ou gilets jaunes sans le sou, tout le monde commande en Chine pour exprimer ses revendications.
20 degrés Paris, 20 degrés.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Le Venezuela, votre pays d'origine, André Neyna, est toujours plongé dans une profonde crise politique avec deux présidents. Il y a aussi une crise économique, une crise sociale. Les États-Unis, qui ne reconnaissent plus Nicolas Maduro comme chef d'État, ont envoyé cette semaine une cargaison d'aide humanitaire qui est devenue le centre d'une dispute aussi politique que diplomatique. Pourquoi, André Neyna Flores?
Oui, effectivement, les États-Unis ont envoyé des tonnes d'aliments et de médicaments pour les faire parvenir aux citoyens vénézuéliens les plus défavorisés, mais le gouvernement de Nicolas Maduro n'a pas autorisé l'entrée des convois américains et cette aide humanitaire se trouve maintenant en Colombie, au Brésil et à l'île de Curaçao qui fait partie des territoires des Pays-Bas. Le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui est reconnu partiellement comme président par intérim, a promis de faire passer l'aide humanitaire le 23 février au territoire vénézuélien. Mais comment compte-t-il faire cela? Bon, pas trop d'explications pour l'instant, mais les ONG se préparent déjà. C'est le cas du médecin Alexis Sanchez, membre de l'organisation Médicos por Venezuela à la frontière.
La ayuda humanitaria internacional son para grupos vulnerables y para personas que ya están establecidas.
¿Quel est le propos d'Alexis Sanchez?
Il explique que l'aide humanitaire est adressée en principe aux malades qui sont en danger de mort. Les médecins seront présents le 23 février à la frontière colombo-vénézuélienne pour recevoir les médicaments, mais ils feront attention à ne pas trop s'exposer vu la situation tendue qu'ils ont en face. Je parle des dizaines de militaires qui surveillent la zone et des containers qui bloquent le passage des ponts frontaliers.
Alors pourquoi est-ce que le gouvernement de Nicolas Maduro n'autorise pas l'entrée de cette aide humanitaire ?
D'abord parce qu'il considère que l'aide humanitaire est simplement une excuse pour déclencher une intervention militaire américaine au Venezuela. Mais il y a aussi des théories conspiratives encore plus recherchées, comme celle de la vice-présidente Delcy Rodríguez, qui a déclaré que l'aide humanitaire pourrait contenir des armes biologiques pour tuer le peuple vénézuélien. Nous l'écoutons.
Esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena. Podríamos decir.
Clairement, Delcy Rodríguez adhère à la théorie du complot. Hein.
Oui, exactement. Elle dit, cette aide humanitaire est empoisonnée et est-elle cancérigène? Ce sont des armes biologiques que les États-Unis envoient sous forme d'aide humanitaire, assure la vice-présidente, sans apporter aucune preuve. Ça, il faut le dire. C'est un bras de fer entre deux présidents, Juan Guaido et Nicolas Maduro, pendant que des milliers de Vénézuéliens continuent à mourir de faim et du manque de médicaments.
Et bien évidemment, Andréana Flores, avec la rédaction en espagnol de RFI, vous suivez l'évolution de la situation au jour le jour. Le deuxième sommet Trump-Kim aura lieu les 27 et 28 février à Hanoï au Vietnam. Et il est possible qu'à cette occasion, Kim Jong-un effectue une visite officielle au Vietnam. Le premier d'un leader nord-coréen depuis plus de 50 ans, cela pour renforcer les liens bilatéraux, également pour tirer des leçons de la transformation économique du Vietnam. Tu Hang Lai, est-ce que le modèle vietnamien est applicable à la Corée du Nord, sachant que c'est là ce que souhaite le ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, l'avait dit lors de sa visite à Hanoï l'année dernière.
Oui, c'est en fait ce que la Corée du Nord est encouragée à suivre. Et d'après le chercheur l'expert Lee Hong-hyep de l'Institut d'études sur l'Asie du Sud-Est, basé à Singapour, lors de l'interview avec notre rédaction vietnamienne, la transformation économique du Vietnam peut être une bonne source d'inspiration et de réflexion pour Kim Jong-un. Alors, pour quelles raisons, je vous propose de l'écouter.
Nền kinh tế của Bắc Triều Tiên hiện nay thì có một số điểm nó khá tương đồng với tình hình kinh tế của Việt Nam trước đổi mới.
Alors, il dit que l'économie actuelle de la Corée du Nord a des points communs à celle du Vietnam avant son ouverture en 1986. Alors, il s'agit de l'économie centralisée, dominée par les entreprises d'État qui fonctionnent aux ordres bureaucratiques des autorités. Alors, la Corée du Nord n'entretient ses relations commerciales qu'avec quelques pays, en particulier avec la Chine. C'était le cas des Vietnamiens avant 1986. Ils n'avaient comme partenaires commerciaux que les pays socialistes, notamment l'URSS et l'Europe de l'Est. Et enfin, la Corée du Nord se trouve en ce moment sous l'embargo américain à cause de ses programmes balistiques et nucléaires. Le Vietnam a aussi connu cette situation jusqu'aux années 1990. Mais pourtant, la Corée du Nord a le point de départ plus avantageux que le Vietnam pendant les années 80, comme le niveau de vie plus élevé dans quelques grandes villes, notamment à Pyongyang. Elle a créé quelques zones économiques spéciales et mené plusieurs réformes économiques.
Concrètement, qu'est-ce qui pourrait inspirer la Corée du Nord à propos de ce qui se passe et ce qui se passe bien au Vietnam en matière économique?
Alors, sur ce point, le chercheur Lee Hong-hyep nous livre ses explications. Écoutons-le encore.
Một trong những cái đặc điểm nổi bật của cái đổi mới Việt Nam đấy là họ làm từ tiện.
Quelle est l'analyse de Léon Diep?
Alors, il a dit que les autorités vietnamiennes effectuent la transformation économique étape par étape, c'est-à-dire que de manière pas trop systématique, pas trop rapide, parce que si les réformes étaient menées trop rapidement, cela conduirait à des risques politiques qui affaiblissent le pouvoir du Parti communiste du Vietnam. La Corée du Nord et Kim Jong-un seraient attirés par cette transformation économique qui aidera le leader nord-coréen à atteindre deux objectifs, le développement, l'ouverture de l'économie et le maintien de son pouvoir et celui de son parti. Alors toujours d'après Lee Hong-hyep, Pyongyang peut suivre le modèle vietnamien en matière diplomatique, c'est-à-dire améliorer ses relations diplomatiques avec les États-Unis et être autonome en matière de diplomatie extérieure. Et enfin, la Corée du Nord se voit aussi comme un partenaire potentiel pour des investissements et des échanges commerciaux avec les États-Unis, une fois qu'elle mène son programme de réforme et d'ouverture.
Et voilà, ce serait une manière de la Corée du Nord, pour la Corée du Nord, de s'ouvrir un peu plus au monde. Merci Tuan Anglais de la rédaction vietnamienne de RFI. Il ne reste plus que 2 semaines à la Chine et aux États-Unis pour trouver un accord sur le commerce avant que les nouveaux droits de douane entrent en vigueur. Ce vendredi, le président chinois a reçu à Pékin la délégation américaine. Lina Wang, les deux parties se disent optimistes pour un futur protocole d'accord.
Oui, effectivement, la date butoir reste toujours le 1er mars. Cette date passée, les États-Unis vont faire passer de 10 à 25% des droits de douane sur les produits venant de la Chine, ce qui représente 200 milliards de dollars par an. Cette trêve fragile de 90 jours vise à ce que les deux parties trouvent un terrain d'entente pour régler les conflits commerciaux et d'où les deux, ils disent, optimistes pour les avancements. Mais pourtant, la Chine n'a pas l'air vouloir arrêter de financer les entreprises étatiques ni d'arrêter de faire de la pression sur les entreprises américaines pour qu'elles acceptent, malgré elles, de partager certaines technologies avec la Chine afin de pouvoir rester sur le marché chinois. Le respect de la propriété intellectuelle est une concurrence loyale et équitable. Ce sont les deux demandes principales des États-Unis. Et Trump se dit déterminé dans cette guerre. On l'écoute.
Things are going well with China. China wants to make a deal very badly.
Il s'agit donc des commentaires de Donald Trump sur la Chine, des propos tenus durant une conférence de son cabinet cette semaine. Que dit-il, le président américain ?
Il s'exprime lors de cette conférence. La délégation américaine commençait déjà la négociation à Pékin. Il commentait « La Chine a besoin d'un accord en urgence pour ne plus souffrir de la perte économique liée à la guerre commerciale. Mais les États-Unis ne veulent pas d'un accord superficiel qui ne dure qu'un seul an. Ils jugent que les États-Unis se trouvent dans une position idéale aujourd'hui pour corriger ce qui faisait que son pays était un canard boiteux qui perd son influence. »
Alors après cette nouvelle rencontre à Pékin, les Chinois et les Américains ont fait une photo ensemble. Le secrétaire au Trésor l'a ensuite publié sur son compte Twitter. C'est de la diplomatie, c'est un signe diplomatique qui suscite de l'optimisme sur les négociations à venir. D'ailleurs, Linan, quelles seront les prochaines étapes ?
Déjà lors de cette rencontre, la Chine promet de ne plus donner de subventions industrielles à ses entreprises étatiques, mais n'a pas expliqué comment y arriver. Ce sera un des plus grands problèmes à résoudre pour la suite. Et la semaine prochaine, une délégation chinoise se rendra à Washington pour continuer les pourparlers. La possibilité de se donner encore 60 jours de plus pour la recherche d'un accord a été mentionnée justement par l'agence de presse financière américaine Bloomberg cette semaine, ce qui reflète la complexité pour résoudre cet engrenage commercial.
Alors tout à l'heure, vous nous disiez que les droits de douane pouvaient passer de 10 à 25% au 1er mars, mais c'est réversible. C'est-à-dire que si les uns et les autres s'entendent, on irait pas jusque-là.
Il y a deux cas pour la prévision. Déjà pour le premier cas, s'ils s'entendent et qu'un accord a été trouvé, il y aura peut-être possiblement pas de taxe de douane jusqu'à 25%. Et deuxième possibilité, c'est que s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ils vont prolonger cette trêve encore 60 jours de plus.
D'accord, donc les négociations continuent dans un climat d'optimisme, comme vous le disiez. Et bien évidemment, la rédaction chinoise de RFI suit tout cela de très près, comme d'ailleurs toutes les autres rédactions de Radio France Internationale, que ce soit la rédaction en espagnol ou que ce soit la rédaction vietnamienne et les 13 autres rédactions, puisque RFI parle finalement 14 langues. C'était Accent du Monde. Merci pour votre attention.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Ils sont au nombre de 6, les pays des Balkans. Serbie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord et Albanie. Tous veulent rejoindre l'Union européenne. Mais l'Union européenne estime qu'il est urgent de prendre son temps avant de les accueillir.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Dimanche, à partir de 17h10 TU.
RFI.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en brésilien.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Écoutez RFI en brésilien à Belém sur 93.7 FM et sur br.rfi.fr.